Oh, ça va pas trop fort. Hein. Je sais que vous êtes fatigué. Est-ce qu'on peut essayer une nouvelle fois? Shalom! Ah, ça fait chaud. C'est une merveilleuse parole, shalom. Vous savez ce que ça veut dire, n'est-ce pas? Ça veut dire paix. Mais, encore plus, en Israël, on utilise shalom quand on au début d'une conversation, à la fin d'une conversation. Et en fait, shalom vient du mot shalem qui englobe tout. C'est ça ce que Dieu veut. Dieu ne veut pas nous donner seulement un vague sentiment de sérénité. Il veut vraiment envahir notre vie de sa présence, de sa bonté, de sa bénédiction. Donc ce mot shalom est un très beau mot. Donc maintenant que vous sachez tout ça, est-ce qu'on peut essayer encore une nouvelle fois? Shalom! Ah, bravo. Merci. Alors, je m'appelle Josué Tornil. Je suis missionnaire juif pour Jésus. Je suis né dans la terre promise à Abraham, Isaac et Jacob, à New York, aux États-Unis. Plus sérieusement, je reviens de Jérusalem il y a quelques jours où on a effectué une campagne d'évangélisation. Mais un petit mot sur Juif pour Jésus. Qu'est-ce que c'est que Juif pour Jésus? Eh bien, certaines personnes y trouvent une contradiction. D'ailleurs, j'étais en train de distribuer des tracts à la République. Un de mes tracts préférés s'intitule tout simplement Juif pour Jésus. À l'intérieur, on peut lire le fait que tu sois né dans une famille chrétienne ne veut pas dire que tu es chrétien. C'est comme si tu étais né dans une boulangerie, tu ne serais pas forcément un petit pain. Donc on essaie d'utiliser un peu l'humour pour toucher. Et une jeune femme m'a vu avec un t-shirt Juif pour Jésus. Elle m'a dit, Juif pour Jésus, c'est pas possible. C'est comme des végétariens qui mangent la viande. Je me suis retourné et je lui ai dit, non, je ne suis pas végétarien, je suis juif, convaincu que Jésus est le Messie. Alors elle m'a dit, quelle honte. Quelle honte, un juif qui prêche Jésus après tout ce que les chrétiens nous ont fait. Et je dis, c'est vrai que j'ai honte. J'ai honte de mes péchés. J'ai honte des péchés de mon peuple. Mais je n'ai pas honte de Jésus. Je n'ai pas honte de l'Évangile. Je crois que cette réponse lui a touché un petit peu parce qu'elle a hésité avant de répondre. Est-ce que ta mère sait ce que tu fais? Et oui, ma mère sait ce que je fais. Et voilà, un petit mot d'introduction sur Juif pour Jésus. Mais juste avant d'expliquer un peu, j'aimerais juste partager quelques nouvelles de mon voyage en Israël. On était avec notre équipe pendant 5 semaines. Donc on va voir une courte vidéo en anglais. Pour ceux qui ne sont pas, qui ne parlent pas cette langue céleste, il y a des sous-titres en français, une langue terrestre. Donc, tu veux bien... Alors... Donc, nous avons... Merci. On peut pas, ça, c'était à la rue des Rosiers, près de Saint-Paul. Une dame, pour la première fois, a rencontré mon collègue qui était juif, croyant Jésus, et voulait savoir plein de choses. En général, les juifs que l'on rencontre dans la rue sont assez perplexes par rapport à notre association et intéressés. On peut passer à... Ah, j'ai la première. Ça, c'est notre bureau parisien, avec des barricades que la police nous a gentiment mis à cause de la situation actuelle en France. Et juste un petit mot sur ces 3 dernières personnes qui ont accepté le Seigneur Jésus au bureau, Samuel, Dominique et Patricia en particulier. Je vais juste parler un petit peu d'elle. Elle est venue un jour à notre bureau, après les attentats de Charlie Hebdo. Elle a voulu se retrouver avec d'autres. Et Patricia est quelqu'un qui garde la Torah, ou la loi, les traditions juives. Elle garde Shabbat, elle mange kasher. Et un vendredi soir, une soirée de Shabbat, elle est venue chez nous. Et j'ai dit, Patricia, pourquoi est-ce que tu viens chez nous? Pourquoi est-ce que tu vas faire la synagogue? Elle a dit, eh bien, à la synagogue, on ne me laisse pas amener mon chien. Alors, si Juif pour Jésus, vous laissez que je vienne avec mon chien, je viendrai chez vous. Alors, à Juif pour Jésus, on aime beaucoup les chiens. Et il se trouve que l'un de mes collègues, Karl, a un chien aussi, qui s'appelle Chloé, mais Chloé est chrétienne. Donc, je me suis dit que les 2 chiens ensemble, avec Patricia, il y aurait quelque chose de sympathique. Et plutôt cette année, Patricia a dit, Josué, je trouve la loi, la Torah pesante, les rabbins durs, et je veux être libre. Est-ce que Jésus peut me libérer? Et elle a accepté le Seigneur cette année, au mois de janvier. Alors, voilà, un petit mot sur la médiatisation. J'étais en Israël pendant le jour de la libération de Jérusalem. J'étais là pendant la Nakba, qui est pour les Palestiniens la catastrophe. J'étais là pour l'ambassade d'Israël qui a déménagé à Jérusalem. J'étais là pour les 70 ans pour l'indépendance d'Israël, tout dans une semaine. Et juste pour vous dire, les choses ne pouvaient passer de plus calme. je sais que ma femme m'a dit qu'elle était là, elle a entendu plein de choses sur les médias, mais il n'y avait pas une seule iota de tension à Jérusalem. Et je voulais juste vous dire, tenez compte que tout ce que les médias disent n'est pas toujours vrai. D'ailleurs, ça c'est un vendeur palestinien avec qui je suis devenu ami, et vous pouvez voir ce qu'il vendait cette même semaine. En haut, c'est un t-shirt pour Manchester United. En bas, c'est libérer la Palestine, et à gauche, c'est un soutien pour la police israélienne. Tout dans le même magasin palestinien. Alors, une chose à tenir dans la prière, quand vous entendez des choses qui se passent là-bas, priez pour nos frères et sœurs en crise palestinienne qui souffrent lors de ces grandes manifestations. Alors, j'ai eu la joie, le privilège d'être baptisé par deux Palestiniens dans la rivière du Jourdain, quand j'ai premièrement donné ma vie au Seigneur. Mais ces deux pasteurs palestiniens qui m'ont baptisé ne peuvent plus vivre en Palestine parce qu'ils sont persécutés à la fois par la Hamas, une de eux, et par l'autorité palestinienne. Donc quand les médias nous remontent un peu l'émotion, c'est le moment pour nous de nous plier dans la prière pour nos frères en Christ en Palestine et en Israël. Alors, Juif pour Jésus a eu vraiment à cœur une campagne d'évangélisation que nous appelons « Voici votre Dieu », où Dieu dit à Ésaïe le prophète « Consolez, consolez mon peuple ». Et nous avons voulu aller à Jérusalem pour... Nous n'avons pas voulu aller à Jérusalem, c'était la conviction d'aller à Jérusalem. Je crois que la plupart d'entre nous auraient voulu éviter Jérusalem, qui est une ville assez volatile, mais on a eu la conviction d'aller à Jérusalem et partager la parole de Dieu avec les Jérusalemites. Mais comment faire ce travail dans une ville qui a rejeté les prophètes, où Jésus a dit, Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et ceux qui te sont envoyés, combien de fois j'aurais voulu te ramasser comme une mère poule, ramasser tout ça, et tu n'as pas voulu. Dorénavant, tu ne me verras plus jusqu'à ce que tu dis, Baruch haba b'shem Adonai, béni soit celui qui vient au Seigneur. Comment faire ça? Et on était un peu face à ce défi, et on s'est dit, bon, bah, comment est-ce qu'on va prendre un bol de spaghettis et les tirer dans une file pour pouvoir y voir une ligne droite. Et on a décidé de vraiment prendre conscience de cette ville et regarder tout ce que la ville représente, tout ce qu'elle est. Et on a découvert une ville très diversifiée et on s'est dit cette ville n'a pas besoin d'une campagne, mais de plusieurs campagnes dédiées ou spécifiées pour différents types de personnes. Et donc on a voulu toucher les juifs religieux, mais on a découvert que les juifs religieux ne parlent pas avec hommes, ne parle pas avec les juifs religieux femmes. Donc, le même équipe ne pouvait pas toucher les deux groupes. Ou encore, il y avait 60 000 russophones à Jérusalem qu'on a découvert. Ou encore, on a vu qu'il y a des laïcs aussi. Même si Jérusalem est une ville assez religieuse, à l'opposé du reste d'Israël, si le reste du pays d'Israël fait 80% d'Israël est laïque, 20% au maximum est religieux, à Jérusalem, c'est le contraire. C'est 80 à 85% qui est religieux et seulement une minorité qui est laïque. Donc, les mêmes types et méthodologies ne pouvaient pas toucher les mêmes groupes. Et on a regardé qu'il y avait un groupe d'artistes. Donc, je vais commencer juste avec ça. Les artistes à Jérusalem ne sont pas très bien considérés au sein de cette communauté de Jérusalem qui est religieuse, politique, culturelle. Et les artistes n'ont pas vraiment de voix. Donc, on a voulu donner une voix aux artistes et on leur a demandé de lire ce passage de Jésus qui pleure, qui se lamente sur Jérusalem, et d'offrir quelques tableaux, et on les a rassemblés dans une expo à Jérusalem. Et voici quelques tableaux de ces artistes israéliens, juifs, de Jérusalem, qui ne sont pas croyants en Jésus, et qui ont ressenti profondément la parole de Jésus au sein d'eux. C'est quelque chose qui a été émouvant pour beaucoup, de voir ces jeunes juifs qui ne connaissent pas le Seigneur et qui ont voulu. Alors, l'autre équipe à qui on s'est donné, c'est pour toucher les toxicomanes, les SDF et les prostituées à Jérusalem. Et c'était un moment merveilleux. L'un de nos équipés qui est missionnaire, qui, que voici, s'appelle Yigal. Yigal était dans une bande, c'était un criminel, il n'a pas fini le lycée, il n'a même pas fait son service militaire, qui est obligatoire pour l'armée, parce qu'il a passé ses temps en prison, mais le Seigneur a complètement transformé sa vie. Et il est devenu un amoureux des gens et du Seigneur Jésus. Donc lui, il a géré cette équipe qui touchait les toxicomanes, les SDF et les prostituées. Et dans la rue, il a rencontré quelqu'un avec qui il a fait la prison. Il a vu ce que leur vie, comment leur vie se sont déployées. Il a dit, mais qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Il a partagé le Seigneur Jésus avec lui. Et ce soir-là, ce jeune homme a donné plus un jeune homme, a donné sa vie au Seigneur Jésus. Alors, la pauvreté est un grand problème à Jérusalem. C'est la ville la plus pauvre d'Israël. Donc, beaucoup de chrétiens vont faire le tourisme en Israël. Vous savez, 1 600 000 par an. Les chrétiens vont faire des pèlerinages. Mais ils vont pour voir les sites, pour visiter l'archéologie, pour découvrir la ville de la Bible, la ville sainte, si vous voulez. Peu, ils vont observer la ville. Et donc, on a ramené 75 à 150 chrétiens par semaine durant ce temps, où ils venaient nettoyer, ils venaient servir les juifs religieux, où ils venaient juste pour apporter des vivres, cuisiner, aider avec les enfants. Et c'est une manière de pouvoir toucher les juifs orthodoxes d'une manière très profonde. Alors, dans la culture juive orthodoxe, les femmes peuvent avoir 8, 9, 10, voire 13 enfants. Et donc, souvent, ces chrétiens étaient au service de ces femmes pour leur aider à la maison. Il y a eu des merveilleux rencontres. Une femme en particulier, qui était femme de rabbin, était tellement touchée par la présence de ces gens-là qu'elle a dit, quand ils sont partis, « Merci de ne pas m'oublier et merci de me faire parvenir en secret un Nouveau Testament. » Voici, mon équipe s'est gérée plutôt des juifs religieux, ce qu'on appelle en hébreu « Haredim ». « Haredim » vient d'un mot qu'Ésaïe, le prophète, a utilisé, qui parle de ceux qui tremblent, ceux qui craignent devant l'Éternel. Et c'est pour ça qu'ils s'habillent en noir et blanc, c'est pour ça qu'ils poussent la barbe, parce que c'est en conformité avec la tradition et la loi juive. D'ailleurs, c'est le thème de notre soirée ce soir, c'est la Torah, comment Jésus accomplit la Torah. Et voilà, les fruits de ce temps étaient formidables. Je vous raconte juste une histoire. J'étais au centre de Jérusalem et j'ai vu un jeune homme assis sur le banc. Il était habillé comme la tradition le veut. Et je me suis assis à côté de lui parce que pas loin de là, il y avait un bar discret où vont les juifs religieux en cachette pour boire et fumer et danser. Et donc, je suis sorti de ce bar où j'essaie de rencontrer quelques personnes. Et j'ai vu ce jeune et je lui ai dit, est-ce que ta foi, tu le vis à l'intérieur ou c'est quelque chose plutôt de collectif, communautaire? Il a dit, c'est plutôt collectif, communautaire. Par contre, une fois, je suis allé en Ukraine et j'étais au tombeau d'un grand rabbin qui est décédé, qui s'appelle le rabbi Nachman, et j'ai prié là-bas et j'ai ressenti quelque chose à l'intérieur. Et je lui ai dit, Nachman, comment est-ce possible que tu ne vis pas ça dans la ville sainte, dans Jérusalem? Tu dois aller en Ukraine quelque part. Il a dit, je ne sais pas. Alors, je lui ai parlé de mon rabbin. Je lui ai dit, peut-être que mon rabbin peut t'aider. Je lui ai partagé l'évangile avec lui. Il a accepté un Nouveau Testament. Il m'a dit, je veux partager ce livre avec ma mère. Quelques jours plus tard, il m'a dit, ma mère dit, trouve le livre très beau et j'aimerais continuer le contact. Donc, je l'ai appelé quelques jours plus tard pour prendre un café. Mais à ce moment-là, l'opposition à Jérusalem aux missionnaires est devenue à tel point qu'il ne pouvait plus me recevoir. Donc, mais Nahum, son nom veut dire consolation. Et c'est ça vient directement d'Ésaïe 40. Consolez mon peuple. Parle-lui, dis-leur qu'elle a reçu au double de la main de l'Éternel ses péchés. Donc, je suis content d'être là. C'est pour vous qui ne connaissez pas Juif pour Jésus. La rue de Sèvres est une, si ce n'est la première église à soutenir notre association à Paris. Et donc, je suis très reconnaissant d'être là. Alors, sans trop attarder, on va plonger nos regards dans un texte de Matthieu chapitre 5. Arrêter le PowerPoint. Merci, Paul. On va regarder Matthieu chapitre 5, verset 17. En avant. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la Torah ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. En effet, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre n'auront pas disparu, pas une seule lettre, ni un seul trait de lettre, ne disparaîtra de la loi avant que tout ne soit arrivé. Celui donc qui violera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les mettra en pratique et les enseignera aux autres, celui-là sera appelé grand. En effet, je vous le dis, si votre justice ne dépasse pas celle des spécialistes de la loi et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras pas de meurtre. Celui qui commet un meurtre mérite de passer en jugement, mais moi je vous dis, tout homme qui se met sans raison en colère contre son frère mérite de passer en jugement. Celui qui traite son frère de raca, d'imbécile, mérite d'être puni par le tribunal. Et celui qui le traite de fou mérite d'être puni par le feu de l'enfer. Si donc tu présentes ton offrande vers l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande vers l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Mets-toi rapidement d'accord avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice et que tu ne sois mis en prison. Je te le dis en vérité, tu n'en sortiras pas avant d'avoir remboursé jusqu'au dernier centime. Matthieu écrit à ces premières communautés juives qui ont cru en Jésus. Et ces premières communautés juives qui ont cru en Jésus dans les villes de Judée, Paul l'apôtre nous dit qu'elles ont subi beaucoup de persécutions. Elles ont compris que Jésus était le Messie, mais qui était vraiment Jésus? Et Matthieu essaie de leur dire que Jésus est le comble de tous nos espoirs. Et c'est pour ça qu'il commence avec cette magnifique généalogie dans le premier chapitre, où il dit cette phrase tellement célèbre, « Voici la généalogie de Jésus le Messie, fils de David, fils d'Abraham. » Fils de David en hébreu est tout simplement un autre synonyme pour dire Messie. Fils d'Abraham, pour les Juifs, ça veut dire tout simplement un Juif. Et après, il passe cette généalogie pour dire qu'au-delà de tous nos ancêtres, au-delà de tout notre glorieux passé, que tout le monde aime glorifier leur passé, nos ancêtres, les Gaulois, n'est-ce pas? Jésus dépasse de loin tout cela. Et ici, Jésus, dans l'un de ses cinq discours dans l'épître de Matthieu, touche le sujet sensible, importantissime pour les Juifs, au plus haut point, quelle est la place de la loi? Et Jésus dit clairement, ne croyez pas que je suis venu abolir la loi. Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Alors, juste pour vous donner un petit parcours de ce que je vais dire ce soir, ou ce que plutôt Jésus essaie de dire à travers ce texte, il dit deux choses, trois choses. Il dit, voici ce que vous devez faire. Numéro un. Donc, si vous avez des notes, c'est Jésus nous dit ce qu'il faut faire pour rentrer dans le royaume des cieux. Numéro 2, il dit, vous ne pouvez pas le faire. Voici ce que vous devez faire. Deuxièmement, vous ne pouvez pas faire ça. Vous n'arriverez pas à ça. Troisièmement, il dit, je le fais pour vous. Je le fais pour vous. Alors, pour comprendre ce que c'est que ce texte, il faut comprendre un peu le contexte et la culture juive. Vous voyez, dans la Bible, en hébreu, parmi les juifs, on n'a pas le mot Bible. Le mot Bible n'existe pas. Nous avons un acronyme qui est Tanakh. Et Tanakh est tout simplement la loi, les prophètes et les psaumes. Donc quand Jésus utilise ce terme loi et prophète, il est en train de parler de toute la Bible. Pas uniquement de la loi. La loi, les rabbins, d'une manière très ingénieuse, ont divisé la loi en 39 catégories de travail et 613 commandements qu'un juif religieux doit accomplir chaque jour de sa vie, et c'est pour ça la photo des juifs religieux que vous voyez, qu'ils essaient quotidiennement, avec toute leur force, avec toutes leurs ailes, d'accomplir cette loi, et c'est pour ça qu'ils se mettent à part. Peut-être une communauté qui est similaire, ce sont les Amish, ou les moines, qui essayent de s'isoler pour justement se concentrer et ne pas être tentés par le péché du monde. Et Jésus dit, que la justice des hommes doit dépasser, surpasser, aller au-delà des scribes et des pharisiens. Donc un petit mot sur les scribes et les pharisiens de cette époque de Jésus. Je vous ai déjà parlé que les rabbins, les pharisiens qui étaient les ancêtres des rabbins, les ancêtres spirituels des rabbins, ont divisé la loi dans des catégories pour pouvoir mieux suivre, mieux systématiser cette loi. Les pharisiens sont nés dans un mouvement, et ils étaient un mouvement de contre-culture à l'époque. Ce n'était pas la génération de 68, c'était la génération des Maccabées, des Hellénisants. Le monde voulait être grec. Beaucoup de Juifs voulaient être grecs. Les gens qui s'appelaient Josué ont changé leur nom pour devenir Jason. Les Juifs qui s'appelaient Moïse ont changé leur nom pour devenir Menelaus. Et dans ce mouvement d'hellénisation est né le groupe de pharisiens. D'ailleurs, il y a une anecdote qui parle de cela, où un jour, dans une école de Parisiens, les étudiants vont à la Rosh Yeshiva, au directeur de cette école religieuse, et dit, est-ce qu'on peut étudier la philosophie grecque? Et le président, le directeur de l'école a dit, vous pouvez étudier toute la philosophie grecque que vous voulez si vous accomplissez quotidiennement votre portion de la Torah, de la loi. Ils ont répondu, mais quelle est notre portion de la Torah? Ils ont dit, votre portion de la Torah se trouve en Josué chapitre 1, verset 8. Donc ils ont vite cherché ce que c'était, et c'est écrit dans cette parole, cette loi de l'Éternel ne quittera pas ta bouche, tu méditeras jour et nuit, tu ne tourneras ni à droite ni à gauche. Perplexe, ils sont revenus vers le directeur, ils ont dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Et le directeur a répondu tout simplement, eh bien c'est simple, si vous trouvez un moment dans votre emploi du temps qui n'est ni jour ni nuit, vous pouvez étudier toute la philosophie grecque que vous voulez. Et ainsi est né le mouvement des pharisiens, ce mouvement qui veut à tout prix compter et faire une liste des choses que faire pour plaire à Dieu. Et Jésus dit, ce n'est pas suffisant de faire cela, il faut dépasser la justice. Il faut aller au-delà de ça. Mais vous ne pouvez pas le faire. Vous ne pouvez pas le faire. Mais moi, je l'ai fait pour vous. Comment est-ce que Jésus a accompli la loi pour nous? De même manière, il y a plein de prophéties messianiques, presque 300 prophéties dans l'Ancien Testament qui nous parlent de l'identité de Jésus, du Messie, du rôle du Messie, des choses spécifiques, par exemple la généalogie de Jésus, du Messie, le lieu où il allait naître, l'époque où il devait venir, même la date où il devait mourir. Tout cela a été détaillé d'une manière merveilleuse et on n'a pas le temps de regarder ces passages, mais je vous recommande chaudement de faire un parcours de l'Ancien Testament et vous voyez comment les prophéties messianiques sont tellement détaillées qu'il y a un portrait merveilleux du Messie et ce portrait, Jésus le remplit à la lettre, à la lettre. Mais au-delà de ça, Jésus dit qu'il accomplit non seulement l'Ancien Testament, il accomplit tous les conseils de Dieu, toute la loi et toutes les prophètes. C'est-à-dire, avec plus d'intégrité que Joseph, avec plus de valeur que David, avec plus de sagesse que Salomon, tout ce qui nous incombe à nous, il l'a fait pour nous. Et c'est l'une des manières qu'il a accompli la loi. Il y a une deuxième manière qu'il a accompli la loi. Et pour cela, il me faut une illustration. Je vais utiliser ma voiture parce que ma femme n'est pas très contente avec moi parce que je prends beaucoup de prunes, les PV. Alors, il se trouve que j'ai pris un PV à Clichy où j'ai garé ma voiture dans une place non réservée à cet effet. Et j'ai reçu une amende, un courrier que j'ai payé immédiatement. Quelques mois plus tard, j'ai reçu un rappel. Monsieur, vous avez la main. Mais j'avais la preuve que j'avais payé. Donc tout ce que j'ai fait, c'est tout simplement, j'ai envoyé la preuve à la préfecture et voilà, vous ne pouvez pas me toucher. J'avais aucun accompli la loi. Il y a deux manières d'accomplir une loi quelconque. Vous pouvez le faire, c'est-à-dire vous placer à l'emplacement prévu à cet effet, ou vous pouvez ne pas le faire, briser cette loi et ensuite payer l'amende. Et de deux manières, on accomplit la loi. Vous comprenez? Mon pensée un peu détournée. Et ainsi, Jésus a accompli toute la loi. Il a vécu une vie entièrement sainte. Et ensuite, il a payé le prix, comme s'il avait tout, absolument tout brisé. Jésus a accompli deux fois la loi. S'il avait juste accompli une vie sainte pour vous, c'est comme garder une ardoise vide. Bon courage pour la garder propre. Mais non, il a tout payé. Quand j'étais jeune chrétien, je croyais que quand je péchais, ce qui m'est arrivé assez souvent, ce qui m'arrive encore, de temps en temps, je ne dis pas ma femme, et quand je demandais pardon au Seigneur, je croyais que dans les cieux, il y avait comme un cours céleste, et Jésus allait devant Dieu le Père et disait, mon Père, voilà, Josué a encore péché, X, Y, Z, mais on le connaît. Allez, c'est l'un des autres, des nôtres. Un peu de miséricorde, Père. Laissons passer cette fois-ci. La prochaine fois, il fera mieux. En fait, ce n'est pas ça ce qui se passe aussi. Quand il m'arrive de pécher, je viens à Dieu pour demander pardon de mes péchés, il dit, Père, tu vois cette prune qu'il est déjà payé. Et je ne te demande pas de la miséricorde pour Jésus, je te demande de la justice. Et donc la justice, il est libre, 100% libre, 100% justifié. C'est difficile de comprendre ça dans notre situation aujourd'hui, parce que dans la société, peut-être que le président de la République a le droit, bien sûr, de gracier quelqu'un et de le laisser libre de la prison. Mais il ne va pas prendre cet ancien détenu et ensuite lui donner la Légion d'honneur. Et c'est exactement ce qui se passe en Jésus. C'est exactement ce que Jésus dit qu'il fait pour nous. Paul Appéré est un ami. Je me souviens quand il m'a parlé de la mort de son père. Et je ne sais pas si vous savez, mais le père de Paul a été mobilisé pendant la guerre. Et quelque chose que Paul a découvert seulement à la mort de son père, c'est que pendant la guerre, le colonel, qui était un ami du père de Paul, a été tué de l'autre côté du front. Et il avait tellement à cœur son colonel, il avait tellement d'affection pour lui qu'il a traversé les lignes des ennemis la nuit. Il est allé chercher le corps du colonel qui a mis sur son épaule et a traversé la frontière pour l'enterrer en France. Alors, ça s'est découvert seulement à sa mort. Et quand toute l'unité, le bataillon est venu pour honorer le père de Paul et l'ont couvert de médailles de toute l'unité et aussi les médailles du colonel. Eh bien, c'est ça ce qui se passe. Jésus nous met sur son épaule et nous traversons les lignes de l'ennemi. Et tout d'un coup, on est couvert de ses drapeaux, de ses couleurs, de ses médailles, et l'univers entier nous salue. Non, vous ne pouvez pas accomplir ce que je l'ai accompli pour vous deux fois. Et aujourd'hui, l'univers tout entier nous salue. C'est ça l'Évangile. C'est ça ce que Jésus a fait pour vous. C'est ça ce que Jésus a fait pour nous. Un mot sur ce passage que beaucoup de traducteurs ont du mal, c'est le mot « réka » qui est traduit dans ce passage comme « imbécile ». En hébreu, c'est difficile de traduire ce mot « réka » qui vient du mot « rek » qui veut dire « vide », qui veut dire « sans valeur ». Et c'est ça absolument ce que Dieu ne tolère pas, qu'on considère les uns les autres sans valeur. Parce qu'il nous considère d'une valeur inestimable, que nous, en tant que pécheurs, Christ est mort pour nos péchés. Dieu ne nous voit jamais, au plus grand jamais, sans valeur. Il nous voit d'une valeur inestimable, au point que dans l'Épître aux Philippiens, c'est écrit « Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ, lui qui est de condition divine. » Il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est déplié lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Vous voyez, Dieu, dans la personne de Jésus, s'est vidé. Il est devenu réca. Il s'est vidé de sa gloire pour que nous puissions avoir sa valeur inestimable. Une dernière petite application, et je vais fermer avec ceci. Je viens d'une famille juive et mes deux grands-parents avaient un poste assez typiquement juif. Ils étaient tailleurs. En hébreu, on appelle ça shmata. Et l'origine de tailleur, c'était dans les petits villages de Pologne, de l'Est, les tailleurs ou le shmata allaient de village en village et ils criaient au grand roi shmata, shmata. Et les gens venaient amener leurs vieux torchons, leurs vieux lingots, et ces chemins-là, ils les prenaient, les reconditionnaient, les travaillaient, les nettoyaient, recyclaient. Et c'est comme ça qu'est né le métier de tailleur. Alors Dieu est un grand chemin. Il est un grand tailleur. Il dit, si vos péchés sont comme des lingots sales, comme le cramoisi, moi je vous rendrai plus grand, plus pur que la neige. Seigneur Jésus, je te remercie pour tout ce que tu as fait pour nous depuis la création du monde, où tu nous as vus de loin, tu nous as aimés, tu as désiré notre présence, tu as désiré ma présence. Ton amour est si tendre et si vulnérable que tu es devenu un bébé un être humain de plus aimable, juste pour gagner nos cœurs. Et je prie que ce soir, puisse gagner nos cœurs à nouveau par le travail de l'Esprit Saint. Que tu puisses renouveler envers mes amis ici ce soir cette offre d'amour éternel, de pardon et d'accomplissement, d'épanouissement, de finalité de la loi, de la Bible, de la vie qui se trouve uniquement en toi. Merci Seigneur Jésus. Amen.